13 14. Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Une fois n'est pas coutume, commençons ce journal, avant même les titres, par un témoignage. Kramatorsk, Ukraine, est du pays. La gare, lieu d'exode pour ceux qui fuient les combats. La gare bombardée ce matin, nouvelle scène d'horreur. Bilan hélas sans doute provisoire, 35 morts, une centaine de blessés. La journaliste de France 2, Maryse Burgot, était sur place.
Il y a des dizaines de corps qui jonchent le sol, des pompiers qui essaient d'intervenir tout à côté de cette gare qui semble avoir été visée intentionnellement par les Russes, ce qui est assez stupéfiant quand on réalise qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui se rassemblent ici tous les jours pour quitter l'est du pays. Des images de carnage que nous venons de voir avec des blessés. Nous venons de parler avec un monsieur qui venait avec sa grand-mère. Il voulait la faire quitter cet endroit. Elle est morte dans la voiture. Si c'est intentionnel de la part des Russes, et cela semble l'être, c'est absolument incroyable parce que c'est un nœud ferroviaire avec des centaines de gens qui tentent de partir.
L'Ukraine, ce sera de nouveau une longue page de ce journal, ce récit de Kramatorsk. À nouveau, cette question, quel peut être l'impact du nouveau train de sanctions européennes contre la Russie? Impact réel, reconnaissent les Russes eux-mêmes. Nous irons à Moscou. Et l'autre grand titre de ce journal, ce sera la campagne électorale, évidemment, à deux jours du premier tour. Dernier meeting, opération de mobilisation avant la fin de la campagne officielle ce soir. L'écart qui se resserre entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans les intentions de vote. En cas de duel entre eux, Valérie Pécresse dira pour qui elle vote, mais elle ne donnera pas de consignes. Jean-Luc Mélenchon reçoit le soutien de Christiane Taubira. Battra-t-on des records d'abstention dimanche? À 13h30, rendez-vous spécial avec Maxence Lambrecq du service politique de France Inter. Programme et paroles de candidats en réponse au malaise démocratique. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Et avant de parler de l'Ukraine, la campagne électorale, donc, allez-vous voter dimanche et pour qui? Le savez-vous? Quel président ou présidente voulez-vous pour la France dans les 5 ans à venir? Il reste 2 jours pour répondre à ces questions. La campagne officielle pour l'élection présidentielle s'achève ce soir. Ce sont les dernières heures pour mobiliser et convaincre. En tête dans les intentions de vote, autour de 28%. Emmanuel Macron a fait ce matin un passage surprise sur un marché de Neuilly-sur-Seine, près de Paris, avant d'aller à son quartier général, dans le quartier de la gare Saint-Lazare. QG où, avec l'appui de cadres de la majorité, se tenait une dernière opération de mobilisation des militants marcheurs. Reportage Simon Le Baron.
Oui, bonjour Monique. Est-ce que je vous dérange? C'est Christophe Castaner.
Merci.
Ah, vous savez, d'abord, il ne faut pas avoir peur. Hein. Dans une élection, il faut assumer le risque de l'élection. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron fait.
La peur de quoi, Monique, de Châtelaillon-Plage?
Monique, elle écoute les journaux et elle voit la possibilité qu'Emmanuel Macron puisse ne pas être élu. Dans une élection, il y a toujours cette part de doute. Ça ne veut pas dire qu'il faut être arrogant ni fébrile.
L'idée, c'est vraiment que notre socle soit vraiment mobilisé, qu'on n'ait pas une mauvaise surprise au premier tour.
Bonjour Betty, c'est Marlène Schiappa au téléphone.
Que les gens qui soutiennent Emmanuel Macron aillent vraiment voter Emmanuel Macron et ne se disent pas « c'est gagné, il n'y a pas d'enjeu, je voterai pour lui au deuxième tour ». Voilà. Bah, du coup, l'idée, ce serait que vous puissiez mobiliser un petit peu autour de vous, même très rapidement. Par exemple, envoyer quelques SMS aux gens qui sont dans votre répertoire pour les inciter à voter pour Emmanuel Macron dimanche. Ah, génial.
Bonjour Monsieur Laube, je suis Olivia Grégoire, je fais partie des bénévoles de la campagne d'Emmanuel Macron. Vous êtes
moi, j'ai fait énormément de terrain à Paris. Vous savez que je suis député de Paris 15e et d'un morceau du 7e avant d'être secrétaire d'État. J'ai eu beaucoup de gens au métro qui me disaient « c'est déjà gagné ». Rien n'est jamais gagné. Et donc on ne peut pas se permettre d'avoir des personnes sympathisants ou adhérents qui ne se mobilisent pas. Très bonne journée, merci d'avoir écouté ce message et à très vite j'espère.
Voilà, on mobilise les marcheurs, comme le montre ce reportage de Simon Le Baron. L'écart dans les intentions de vote se resserre ces derniers jours, tout particulièrement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Rien n'est évidemment joué tant que les électeurs ne se sont pas prononcés. Mais les autres candidats évoquent déjà leur attitude si le second tour était le même qu'en 2017. Fabien Roussel, le communiste, appellera le cas échéant à empêcher l'extrême droite de mettre la main sur la France. Même logique chez Anne Hidalgo. Yannick Jadot parle de front républicain. À droite, Valérie Pécresse l'a précisé ce matin sur France Inter, si elle n'est pas au second tour, elle dira pour qui elle votera et le chemin qu'elle pense bon pour la France. Mais elle ne donnera pas de consigne de vote, les électeurs sont libres, dit Valérie Pécresse. Marine Le Pen est à Narbonne pour cette dernière journée de campagne officielle. Reportage, Élodie Forêt.
Un café au comptoir, une pluie de selfies et d'encouragements.
Bonne chance,
merci, merci, merci.
Et Marine Le Pen, le sourire plus détendu que jamais, sentiment, dit-elle, de la campagne accomplie.
En tout cas, celle du premier tour. On termine cette campagne de premier tour serein.
Parmi les militants, les sympathisants croisés, une lueur d'espoir, à condition, dit André, de ne pas réitérer les erreurs du passé si la candidate accède au second tour face à Emmanuel Macron.
Ne pas parler que de Macron, il faut parler de l'avenir de la France, ce qu'on fera demain. Les retraites, voilà. Le pouvoir d'achat, etc. et tout. Son programme, elle, voilà.
Marine Le Pen, à la sortie idéale, accorde, elle, une dernière interview à la presse. Une réponse à Emmanuel Macron et à la castagne qu'il dit envisager pour le second tour.
Une campagne électorale, c'est pas une castagne. Une campagne électorale, c'est la capacité d'offrir aux Français des visions qui sont, certes, pour le coup, fondamentalement divergentes. Moi, j'assume totalement d'avoir un projet radicalement différent de celui d'Emmanuel Macron, mais on peut très bien exprimer cette divergence par des arguments, en aucun cas par une bagarre, comme il semble vouloir l'espérer.
Avant même le vote de dimanche, le duel semble bel et bien ressuscité.
Appeler ou non à faire barrage à Marine Le Pen si la finale est la même qu'il y a 5 ans, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il consultera sa base avant de se prononcer. Accusé d'ambiguïté, il donne quelques précisions supplémentaires. Je dis toujours, on ne donne pas une voix à l'extrême droite. Monsieur Macron, Madame Le Pen, ce n'est pas pareil, nous sommes bien d'accord. Jean-Luc Mélenchon qui reçoit le soutien de Christiane Taubira, qui appelle donc à voter pour lui, justement pour faire barrage à l'extrême droite. Pour le candidat communiste Fabien Roussel aussi, dernière opération mobilisation. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec Lucien Lefebvre de la section du Parti communiste, 20e arrondissement de Paris, où se tient un apé Roussel en cette mi-journée.
Oui, alors on est là dans une section du Parti communiste, vraiment dans son jus. Il y a même la faucille et le marteau accrochés au mur. Des militants communistes de tous âges lui ont préparé donc un apéro, un verre à la main. Le candidat Fabien Roussel papillonne. Il est salué par une dame, un masque, les jours heureux sur le visage. Elle n'était pas convaincue pourtant au départ par le slogan de la campagne.
Bonjour, ça va ?
Vous avez ressuscité le Parti communiste ?
Mais j'ai rien ressuscité. Les jours heureux, mais on a fait le choix assumé de le garder alors que c'était la pandémie. Ouais. Mais me dis pas merci, c'est pas terminé.
Non, mais...
Alors que Christiane Taubira soutienne Jean-Luc Mélenchon, ça ne lui fait ni chaud ni froid. En revanche, l'argument voter pour le mieux placé à gauche, ça l'énerve.
Vous en avez pas marre ? Vous en avez pas marre qu'à chaque fois on dise aux Français, faites barrage, et on n'est pas des castors. Hein.
Alors il invite tout de même les journalistes à partager le barbecue avec lui, au menu calamar et saucisses.
C'est le verre de l'amitié. Si jamais vous hésitez sur votre vote, c'est fait pour ça les affaires vous faites. C'est pour vous convaincre, pour parler si vous voulez. Chopin, jusqu'au bout, une voix est une voix, comme disait Mandela.
Nelson Mandela, le président sud-africain, qui disait aussi, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
Laurence Perron en direct avec Lucien Lefebvre du 20e arrondissement de Paris pour France Inter. Ce soir à minuit prend fin la campagne officielle, plus de réunions publiques, plus de distribution de tracts, ni propagande numérique, plus d'interviews, ni sondages. Pour examiner les programmes, reste la propagande que l'on reçoit en ce moment dans les boîtes aux lettres, les professions de foi des candidats. Et chez ceux qui ne l'ont pas reçu, une partie d'entre eux manifeste leur impatience. C'est le cas, Romane Porcon, France Bleu Nord, à Marc-en-Barœul.
Oui, et certains électeurs comme Louise guettent même l'arrivée du facteur.
Tous les matins, on prend le courrier et c'est toujours pas arrivé. Dans certaines villes, c'est arrivé, mais pas chez nous en tout cas. On aimerait bien en savoir un petit peu plus sur les candidats qui se présentent à la présidentielle.
Il y en a quand même 12.
Oui, 12. Donc il faudrait peut-être un petit peu lire les programmes et savoir pour qui voter dimanche.
À quelques pâtés de maison, la boîte aux lettres de Cédric est bien vide aussi. Il attend de lire les fameuses professions de foi pour faire son choix final.
Je les attends. C'est toujours intéressant de lire les programmes des candidats, parce qu'en fait on ne suit pas forcément tout à la télé. Prendre un peu de temps pour lire, bien étudier tous les programmes de tous les candidats, parce qu'il y a des fois des idées qui sont assez intéressantes pour lesquelles on pourrait adhérer.
Dans le quartier, le facteur l'avoue, il doit multiplier les allers-retours pour terminer sa distribution à temps. Un coup de pression que dénoncent les syndicats. Éric Dizon est secrétaire départemental CGT FAPT.
La Poste, depuis des années, supprime des positions de travail sur une pseudo baisse de trafic. Quand il y a des opérations où on a un peu plus de trafic, la Poste n'est plus en capacité de le faire. Les facteurs ont un samedi sur deux de repos. Là, ils ont envoyé une lettre recommandée au niveau de tous les agents pour leur demander, les obliger à venir travailler samedi en heure complémentaire.
Un appel à la grève est donc lancé par les syndicats. débat ce samedi dans le Nord comme dans le Pas-de-Calais.
Et que vous ayez reçu ou non les professions de foi, deux éclairages dans ce 13-14. Tout à l'heure avec Maxence Lambrecq, les réponses au malaise démocratique, démobilisation, abstention, colère. Quelles propositions, quels propos des candidats. Et tout de suite, leur programme pour la culture, c'est avec vous Stéphane Capron.
Nathalie Arthaud est la seule candidate qui ne fait pas de propositions concrètes pour la culture dans son programme. Nicolas Dupont-Aignan est le plus exhaustif avec 42 propositions. Il met l'accent sur le patrimoine dont il veut fixer le budget annuel à 400 millions d'euros. Marine Le Pen va encore plus loin et souhaite le porter à 1 milliard d'euros. Augmenter les budgets du ministère de la Culture, c'est la promesse de Yannick Jadot qui s'engage à débloquer 1 milliard d'euros supplémentaires chaque année quand Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel proposent de le porter à 1% du PIB par an. Revaloriser les salaires des intermittents, ce sont les propositions de Jean Lassalle et Philippe Poutou qui promet lui un SMIC à 1800 euros net. Valérie Pécresse et Éric Zemmour lient la culture à l'enseignement avec pour l'une des jumelages d'institutions culturelles avec les établissements scolaires et pour l'autre des tournées dans les écoles. Anne Hidalgo souhaite encourager les institutions publiques à réserver 10% de leur programmation à la nouvelle création et Emmanuel Macron propose d'étendre son pass culture de 500 euros pour tous les jeunes de plus de 18 ans.
La campagne électorale à deux jours du premier tour, c'est à suivre sur franceinter.fr. Et donc, nouvel éclairage tout à l'heure avec Maxence Lambrecq, les propositions des candidats pour répondre au malaise démocratique avec ce chiffre en tête, le record d'abstention pour un premier tour 2002, 28,4% sera-t-il battu. D'autres chiffres dans l'actualité française, le nombre de contaminations au Covid en baisse hier par rapport à mercredi, 168 000 cas positifs contre plus de 160 000. À l'hôpital, c'est le décalage habituel, le nombre de malades est toujours en hausse, à plus de 23 000 en tout. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Santé publique France faisait un point ce matin. Avec toute la prudence requise, oui, il y a des signes d'amélioration.
Oui, on connaît la prudence de Santé publique France. Pas question de confirmer que nous avons atteint le pic, comme l'annonçait hier Olivier Véran. Les chiffres doivent encore être consolidés, surtout la baisse de ces derniers jours se prolonger. Mais effectivement, l'agence souligne quelques signes positifs. Si l'incidence nationale de la semaine dernière est encore élevée, autour de 1500. Certaines régions comme la Bretagne ou le Grand Est, les premières à avoir été touchées par ce rebond, voient leur nombre de contaminations diminuer. Le virus circule beaucoup moins également dans les Antilles. Et puis, chez les plus jeunes, l'incidence baisse pour les moins de 20 ans. Certainement, notent les épidémiologistes, parce qu'ils ont été beaucoup contaminés. Donc, ils atteignent une forme d'immunité collective. Petite inquiétude de la part de Santé publique France sur le suivi de cette épidémie. Les Français ont de plus en plus recours aux autotests et ne font plus forcément de tests PCR ou antigéniques pour confirmer un résultat positif. Des cas qui ne se retrouvent donc pas déclarés officiellement et qui pourraient artificiellement baisser le niveau de circulation du virus.
Merci Hélène Chevalier. En bref, Parcoursup, nouvelle étape. Pour rappel, vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky parle d'un mal sans limite. L'Union européenne condamne fermement Kramatorsk, Ukraine. Vous avez entendu dans les titres le témoignage de Maryse Burgo. Cette gare par où ceux qui fuient la guerre passent dans l'est du pays, qui a été bombardée ce matin, deux missiles sur la gare de Kramatorsk. Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial de France Inter en Ukraine. Camille, un bilan provisoire fait état de 35 morts et 100 blessés.
Et oui, et on sait donc que vers 9h ce matin, deux missiles russes à fragmentation sont tombés sur cette gare de Kramatorsk où se massaient plus de 4000 personnes, des civils, des femmes, des enfants principalement, qui tentaient de prendre un train vers l'ouest pour fuir, vous l'avez dit, l'intensification de l'offensive russe dans cette région du Donbass. Hier soir déjà, la ligne de chemin de fer qui reste comme le seul moyen de fuir justement pour les civils avait déjà été bombardée, ce qui avait causé d'importants retards dans les évacuations. Mais là, c'est directement la gare qui a été prise pour cible. Le dernier bilan officiel ukrainien parle même de 39 morts au moins et une centaine de blessés. Au moins 4 enfants sont parmi ces victimes. Sur les images qui circulent depuis l'attaque, on voit des bagages, des poussettes abandonnées sur le parvis de la gare et puis des corps sans vie qui gisent dans des flaques de sang. Et puis, il y a cette vidéo partagée par le président Volodymyr Zelensky qui montre l'un des deux missiles partiellement explosé où l'on voit encore cette inscription en blanc cynique sur le métal kaki « Zaditiei » pour les enfants en russe. Ça n'empêche pas la Russie de nier toute responsabilité dans ce massacre, comme à chaque nouveau crime de guerre. Moscou dénonce une provocation montée de toutes pièces par les autorités ukrainiennes, mais en s'en prenant ainsi à des civils qui tentait d'échapper au combat. L'armée russe, selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a sciemment voulu couper la route de l'évacuation du Donbass. Elle n'y a pas complètement réussi. Les trains de l'exode prévus au départ de Kramatorsk ces prochaines heures sont maintenus. Ils partiront toutefois de la ville voisine de Slaviansk, elle aussi toujours sous contrôle ukrainien.
Camille Magnard en direct d'Ukraine avec Laurent Maketti pour France Inter. Et donc ce bilan en effet déjà augmenté que vous nous donniez à l'instant, 39 morts après ce bombardement, dont 4 enfants. Ce sont les services de sécurité ukrainiens qui donnent ce bilan. La Russie est accusée de crimes de guerre ces derniers jours, en particulier depuis le week-end dernier et la découverte de cadavres de civils tués à Boutcha. L'Union européenne vient d'adopter une nouvelle série de sanctions, interdiction d'importation dans une série de secteurs, accès aux ports européens largement bloqué pour les navires russes, sanctions contre des banques russes, embargo sur le charbon. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
Sylvain, vous êtes en direct de Moscou et en Russie, on admet que les conséquences sur l'économie ne seront pas minces.
Oui, effectivement. 3 jours avant le début de la guerre, devant le Conseil de sécurité de la Russie, le Premier ministre Mikhail Mishustin affirmait qu'il travaillait depuis un moment déjà à un plan d'atténuation des effets des sanctions et de substitution des importations. À ce moment-là, donc, le discours des dirigeants russes, c'était que la Russie pouvait résister aux sanctions. D'ailleurs, disait-on, ne le fait-elle pas déjà depuis 2014, après les premières mesures prises après l'annexion de la Crimée? Mais effectivement, le ton a depuis singulièrement changé. Écoutez, le même Mikhail Mishustin, hier, devant la Douma.
De telles sanctions n'ont pas été appliquées même pendant les années les plus sombres de la guerre froide. Leur objectif est de nous ramener des années, voire des décennies en arrière. Pour nous couper du monde, contraindre la Russie à abandonner des projets économiques et sociaux prometteurs, pour porter un coup au niveau de vie de notre peuple. Tout est fait pour faire grimper l'inflation, pour créer des pénuries de biens de consommation, et au final, des tensions sociales, pour provoquer le mécontentement de la population.
Et si le chef du gouvernement russe tient ce genre de discours devant les députés, c'est qu'il n'est plus possible aujourd'hui de dire à la population que les sanctions n'auront pas d'effet, puisque le premier effet est déjà là, c'est l'inflation. On serait déjà sur un rythme de 20% annuel, d'après certains organismes. Les Russes le ressentent. Le gouvernement n'a plus qu'un choix, c'est de leur demander d'être patient. Hier, le Premier ministre a affirmé qu'il avait des solutions, mais qu'il lui fallait au moins 6 mois pour les mettre en œuvre.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou et les Russes qui reconnaissent les difficultés qu'ils rencontrent dans cette guerre. Hier, c'est le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, qui reconnaissait des pertes importantes au sein de l'armée russe depuis le 24 février. Moscou sanctionné et accusé de crimes de guerre. Mais au milieu de cette page consacrée à l'Ukraine, dans ce 13-14, ouvrons un autre dossier sensible. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Dans une bien moindre mesure, évidemment, il y a aussi des questions depuis le début de la guerre, Claude, sur l'attitude de certains combattants ukrainiens.
Oui, depuis plus d'une semaine, ces interrogations avec ces vidéos qui circulent, des hommes en uniforme ukrainien au visage parfois aisément identifiable qui tirent et qui achèvent des combattants russes blessés. Alors l'une de ces vidéos qui circule a été identifiée par le New York Times, maltraiter, abattre un prisonnier, une atteinte aux conventions de Genève qui définissent les crimes de guerre. Depuis les premiers jours du conflit, les organisations des droits de l'homme ont plusieurs fois mis en garde sur de graves dérives. L'exhibition forcée tout d'abord par l'Ukraine de prisonniers russes devant les médias, puis la diffusion de vidéos montrant des soldats ukrainiens tirant dans les jambes d'hommes à terre. Mais ces images-là sont autrement plus radicales. Alors, qui sont ces hommes? Des soldats de l'armée régulière ukrainienne ou bien des combattants internationaux venus leur prêter main forte? Le chef d'un contingent venu de Géorgie affirmait récemment ne plus vouloir ainsi faire de prisonniers en représailles au massacre de Boutcha. Alors, ces déclarations, les médias et les autorités russes sont évidemment emparé de tout ça. Et dans ce conflit ukrainien où l'image au sens propre comme au sens figuré est essentielle, les accusations d'exaction sont une arme redoutable. Les autorités ukrainiennes qui savent qu'elles doivent remporter la bataille des opinions publiques occidentales ont promis qu'une enquête sera menée et que les responsables seraient traduits en justice.
Et terminons ce journal avec ce qui sera une des images fortes de la journée. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef de la diplomatie, Josep Borrell, qui sont attendus dans les heures à venir à Kiev pour marquer évidemment le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. Cela fait un an aujourd'hui que le journaliste français Olivier Dubois est retenu en otage par un groupe djihadiste. Dans une vidéo, il avait annoncé avoir été enlevé le 8 avril 2021 à Gao. France Inter, au Mali, Manon Laplace.
365 jours depuis un an, les proches et les soutiens d'Olivier Dubois tiennent le décompte de sa captivité. Une dernière preuve de vie a été donnée par le biais d'une vidéo en mars dernier, de quoi faire renaître l'espoir. La journaliste Célia Dalmeda, ancienne consoeur du Reporter, est la porte-parole de son comité de soutien au Mali.
C'est un triste jour pour nous, mais en même temps,
un jour plein d'espoir parce qu'on se dit que depuis la deuxième preuve de vie d'Olivier, qu'il est vivant, qu'il nous entend, qu'il sait qu'on est là, qu'on se mobilise pour lui et on continue de le faire.
Ne pas laisser Olivier tomber dans l'oubli, c'est le principal combat que mènent ses proches.
Il y a eu des marches sportives parce qu'Olivier aime marcher. Il y a eu une masterclass sur le journalisme de terrain. Il y a eu un élan de solidarité derrière la famille d'Olivier, de ses confrères, de ses amis, de ses connaissances, des gens qui ne le connaissaient pas.
Autant d'actions qui ont permis de faire mieux connaître le visage du journaliste et de mettre en lumière sa situation.
Grâce à cette mobilisation, il y a eu un visage sur le nom, il y a eu une histoire derrière ce visage-là. C'est cela qui est quelque chose d'extrêmement positif pour nous.
Aujourd'hui, Olivier Dubois est le seul otage français connu dans le monde. Plus de 300 Maliens, Burkinabés ou Nigériens sont, comme lui, aux mains des groupes djihadistes. À Bamako, Manon Laplace, France Inter.
Et l'Élysée assure les proches d'Olivier Dubois de la pleine mobilisation de l'État pour mettre un terme à sa séquestration. La cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, évacuée et bouclée une partie de la matinée, en pleine messe ce matin, un homme a déposé un colis suspect au pied de l'autel avant de s'enfuir. Les démineurs sont intervenus. À la cour d'assises du Doubs, il a terminé l'audience d'hier en larmes. Nicolas Zepeda, 31 ans, nationalité chilienne, est accusé d'avoir tué son ex-petite amie Narumi Kurosaki, nationalité japonaise, c'était en décembre 2016, le corps n'a jamais été retrouvé. Je ne l'ai pas tué, moi aussi, je veux savoir, a-t-il crié hier à l'audience? Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Bruno.
En direct de Besançon pour France Inter, faut-il prêter foi à ce désarroi? La matinée était consacrée à l'expertise psychiatrique, c'est le portrait d'un manipulateur qui devait être dressé, Jean-Philippe.
Oui, d'emblée, le psychiatre a souligné ce que la cour d'assises a finalement remarqué depuis deux semaines. Nicolas Zepeda a l'art de formuler des réponses complexes à des questions pourtant fort simples, un discours noyant. Alors cherche-t-il à embrouiller son interlocuteur, à éviter les réponses qui le dérangent? Pas forcément, tempère une experte psychologue. Certes, il est manipulateur dans ses rapports aux autres, il cherche à l'amener là où il le souhaite, à garder le contrôle dans la domination. Il a une faible tolérance à la frustration, mais ce n'est pas quelque chose qu'il décide, c'est plutôt quelque chose qu'il subit. Un avocat rebondit. Nicolas Zepeda a traversé l'Atlantique pour revoir Narumi. Ils se retrouvent, ils passent une bonne soirée ensemble, mais il sait qu'elle a un nouveau petit ami. Alors, si elle se refuse à lui, pourrait-on imaginer une réaction violente de Zepeda? C'est certain que ça le positionnerait dans un état de frustration difficilement tolérable, répond l'experte. Comparant finalement cette situation à ce qu'elle observait habituellement dans les cas de féminicide. Alors désormais, les débats sont clos ici à Besançon. Plaidoirie et réquisitoire sont attendus lundi et le verdict mardi.
Jean-Philippe Degnaud en direct pour France Inter. La justice est aussi arrêt sur audience, notre rendez-vous hebdomadaire avec le procès des attentats du 13 novembre. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
C'est avec vous cette semaine en direct du Palais de Justice de l'île de la Cité avec Thomas Robin. On est au-delà des 100 jours de procès désormais, Charlotte. C'est même le 109e aujourd'hui, me disiez-vous, lorsqu'on a préparé cette émission. Et cette semaine ont été évoqués l'après 13 novembre et les projets d'attentat de la cellule terroriste qui est jugée à Paris.
Oui, avec d'abord les questions restées sans réponse, celle par exemple de savoir pourquoi Salah Abdeslam descend dans le métro cette nuit du 13 novembre avec sa ceinture explosive, est-ce qu'il avait l'intention ou en tout cas le projet de se faire exploser. Mais il y a également la question, et c'est discuté en ce moment même à l'audience, des deux survivants du commando des terrasses qui se sont d'abord cachés dans un buisson, puis un appartement de Saint-Denis, celui du logeur Jawad Ben Daoud, où ils préparaient une nouvelle attaque.
Et d'ailleurs, un témoin important est attendu cet après-midi.
Oui, celle qui a permis justement de déjouer cette attaque en identifiant et en dénonçant à la police Abdelhamid Abaoud et Shakib Akrou, les deux survivants du commando des terrasses. Elle va venir témoigner évidemment de manière anonyme, protégée derrière un écran et on attend son témoignage tout à l'heure à 15h30.
Autre fait de la semaine, Charlotte Piret, la juge belge qui a piloté l'essentiel de l'instruction en enquêtant sur les attentats de Bruxelles 4 mois après ceux de Paris, la juge Isabelle Panou, un personnage qui était venu au tout début de procès, a de nouveau témoigné à l'audience.
Oui, un personnage, vous l'avez dit, parce que Isabelle Panou, c'est un franc-parler, c'est une manière de témoigner longuement, de manière très volubile. Elle a parlé pendant 5 heures à la barre, alors qu'elle était déjà venue au 5e jour du procès, c'était le 14 septembre dernier. Elle connaît le dossier par cœur, il faut dire qu'elle l'a instruit toute seule pendant 5 ans en Belgique, mais elle est aussi pétrie de certitudes. Et c'est apparu de manière très flagrante hier ici à l'audience, parce qu'elle a livré son sentiment personnel finalement sur chacun des accusés ou presque. Qu'importe les 7 mois qui se sont écoulés ici et et les déclarations qu'ont pu faire ces accusés, parfois même en reconnaissant une partie des faits qui leur sont reprochés. Donc, elle a détonné ici à l'audience, Isabelle Panou, à la fois par sa manière de s'exprimer, mais aussi par l'agacement qu'elle a suscité, notamment sur les bancs de la Défense.
Un dernier mot, Charlotte, le procès doit s'achever le 25 juin, c'est bientôt la fin de l'examen des faits et le climat se tend.
Je vous parlais de l'agacement de la défense, justement. Et bien voilà, effectivement, ce sont les dernières cartes que la défense est en train de jouer en ce moment, puisque la semaine prochaine, ce seront les tout derniers interrogatoires des accusés. Alors forcément, il y a un peu plus de tension, et ça se sent avec des accrochages un peu avec la cour. Il y a eu par exemple maître Raphaël Kempf, l'avocat de Yassine Attar, qui s'est fait reprendre par le président sur le ton qu'il employait vis-à-vis d'un témoin. Oui, monsieur l'instituteur, répond-il du tac au tac au président. Alors ça fait un peu grincer des dents du côté de la cour, à tel point que le lendemain, l'autre avocat de Yassine Attar, maître Christian Saint-Palais, a tenu à rappeler qu'instituteur était un très beau métier et qu'il l'avait lui-même pratiqué avant d'être avocat. Voilà, ça a un peu adouci les débats jusqu'au prochain moment de tension, parce que c'est toujours inévitable dans une cour d'assises.
Charlotte Piret en direct du Palais de Justice de l'Île de la Cité à Paris avec Thomas Robin pour France Inter. Cette chronique Arrêt sur audience est à retrouver ce week-end en vidéo sur les réseaux sociaux de France Inter. Et puis on continue de suivre le procès au jour le jour, évidemment dans les journaux et via vos comptes Twitter à vous et l'autre envoyé spécial de France Inter, Sophie Parmentier. Un mot cette dernière minute à propos des déclarations de revenus. L'accès en ligne à la déclaration de revenus est suspendu, indique l'administration fiscale. Il y a eu des erreurs de pré-remplissage, accès en ligne, donc pour l'instant suspendu. Le sport, combien de clubs français ont 6 Coupes d'Europe à leur palmarès? Les basketteuses de Bourges peuvent afficher ce bilan impressionnant. La 6e glanée hier, l'Eurocoupe à domicile face à Venise, 74-38. Parmi les joueuses, Laetitia Guapo, l'arrière de Bourges, elle a 26 ans. C'est son premier titre européen. Petite fille, elle était fan du club, elle vit un rêve.
Je suis originaire de Clermont-Ferrand et je venais encourager les tangos, donc j'étais dans les tribunes. Je réalise pas trop pour le moment, mais je suis vraiment trop heureuse et trop fière de l'avoir vécu avec mon équipe. Dénouement de rêve, apparemment, je viens d'apprendre qu'elles ont marqué que 3 paniers dans la deuxième mi-temps. Je m'en étais même pas rendu compte, mais c'est vrai que quatrième quart-temps, on essaie de se dire qu'on va y arriver, qu'on va le faire et qu'on touche presque des doigts ce titre. Franchement, je me disais, rien ne peut nous arriver. Et en fait, on l'a fait, donc c'est juste génial. Je suis trop contente.
La joueuse de Bourges, Laetitia Guapo, après la 6e victoire des filles du basket en Coupe d'Europe, toujours chez les filles en football, cette fois-ci qualification pour le Mondial l'année prochaine. Le Pays de Galles reçoit la France à 20h45. Les Bleus ES sont pour l'instant en tête de leur groupe. Les Galloises sont deuxième. Chez les garçons, le championnat de France de Ligue 1 reprend ce soir à 21h. Lorient-Saint-Etienne, le 16e face au 18e. Dans un petit instant, éclairage sur la campagne électorale à 2 jours du premier tour avec Maxence Lambrecq. Quelle réponse les candidats apportent-ils au malaise démocratique? Et tout de suite la météo.
Salut Steph.
Salut.
Alors, ça s'est bien passé ton rendez-vous à l'hôpital?
Très bien, ils m'ont renouvelé l'ordonnance.
Tu continues avec tes médicaments Mylan?
Ouais, c'est juste que maintenant ça s'appelle Viatrice.
Ah, et ça te change beaucoup alors?
Non, ça change rien, mais ça c'est bien.
Mylan devient Viatrice et nous sommes toujours présents dans la quasi-totalité des pharmacies et des hôpitaux pour continuer à vous donner accès à des médicaments de qualité. Viatrice, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie.
France Inter aime
Fear of the Dawn, le nouvel album de Jack White. En concert le 7 juillet à Lyon et les 18, 19 et 20 juillet à Paris à l'Olympia. Retrouvez Fear of the Dawn, le nouvel album de Jack White, dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
Oui, la météo tout de suite après un peu de publicité.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Beaucoup de vent au passage de la tempête Diego.
Oui, sur la plupart des régions, ça souffle bien. Alors les vents les plus forts soufflent du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Massif central entre cet après-midi et la nuit prochaine. Jusqu'à 90 à 110 km à l'heure attendue, 120 sur le littoral. Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres, puis Puy-de-Dôme et Haute-Loire sont en vigilance orange. On a déjà eu 116 km à l'heure à Saint-Clément-des-Baleines, 96 à Chassiron en Charente-Maritime et 92 à Sille dans les Deux-Sèvres.
De la pluie aussi au programme.
Oui, c'est souvent encombré, pluvieux. Alors les pluies sont très copieuses du nord-ouest vers la région parisienne et le Grand Est, plus irrégulières tout de même du sud-ouest vers le Massif central. De la Haute-Normandie vers les Ardennes et la Lorraine, quelques flocons viennent se mêler à la pluie. Et puis sur le nord des Alpes, là il neige en abondance dès 1800 mètres. Attention aux avalanches, la Savoie est particulièrement impactée, elle est en vigilance orange. Les températures baissent par le nord, 5 degrés seulement à Reims cet après-midi, 6 à Lille, Caen et Paris, mais 13 degrés à Rennes, à Besançon, 17 à Bordeaux, à Lyon, 21 pour Toulouse et 23 pour Bastia.
Mais dites-moi si je me trompe, dimanche il fera beau et froid pour voter.
Il fera beau l'après-midi, enfin beau toute la journée, froid le matin, mais plus doux l'après-midi.
Merci Élodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14.
Et à quelques heures de la fin de la campagne officielle, à deux jours du premier tour de la présidentielle, jusqu'à 13h45 avec Maxence Lambrecq du service politique de France Inter, nous nous penchons sur ce thème, le malaise démocratique. Que proposent les 12 candidats pour renouer le lien ? L'abstention est un chiffre qui sera regardé de très près dimanche. Bonjour Maxence.
Bonjour, bonjour Bruno.
Record d'abstention pour une présidentielle premier tour ?
Oh là, vous... non, ça
2002, 28-04. Pardon, bravo. Je croyais que vous l'aviez en tête, vous qui êtes imbattable, je voulais pas vous piéger. On vous entend en détail dans un instant. D'abord, à propos de cette abstention, reportage dans la périphérie de Caen, Verson. 2017, la participation fut 10 points au-dessus de la moyenne nationale, 84%. 5 ans plus tard, la donne a changé sur le marché. On est entre indécision et abstention. Reportage Sarah Salciel-Rago.
Quel nom glisser dans l'enveloppe dimanche ? Laurence ne sait toujours pas.
Complètement dans l'indécision, surtout qu'on n'a toujours pas reçu les programmes que j'aime bien lire à l'avance. Et là, ça va être encore compliqué. Je trouve que le débat, il est très très bas et on n'a rien en profondeur.
Donc vous allez vous décider dans l'isoloir dimanche ?
Voilà.
Un choix de dernière minute, c'est aussi ce qui risque de se passer pour Myriam, qui ne se reconnaît dans aucun programme.
Oui, je vais aller voter, mais je ne sais pas encore pour qui. On n'écoute pas les gens qui travaillent, on l'augmentation de tout. Les gens ont de plus en plus de mal à vivre. Donc moi, je trouve que... personne n'est là pour nous soutenir.
D'autres n'ont plus confiance en la politique. C'est le cas de Patrick. Il n'est même pas sûr d'aller voter dimanche.
Je sais pas encore. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas. Parce qu'on a de plus en plus affaire à des affairistes plutôt qu'à des politiques qui s'occupent de nous. La politique, ça ressemble plus à rien. Enfin, moi, je suis hyper déçu.
Difficile surtout de se décider pour Michel quand il n'y a pas de débat entre les candidats avant le premier tour.
Il n'y a pas de débat. Chacun s'autocongratule. Et voilà, quoi. Alors, c'est facile, hein. On ne se fait que des compliments. Si devant vous, il n'y a pas d'interlocuteur pour... je suis désolé, c'est pas une campagne.
Dans ces conditions, l'abstention pourrait battre des records. Le dernier sondage Ipsos estime qu'un électeur sur trois pourrait bouder les urnes.
Et donc le record 28,4%, oui. Et pas 0,4 en 2002 au premier tour de la présidentielle. Alors Maxence, on les entend, ces électeurs désabusés qui décideront au dernier moment ou feront peut-être tout autre chose dimanche. Voyons avec vous ce que proposent les candidats face à ce malaise démocratique. Quelles solutions avancent-ils ?
Oui, on va pour cela donner la parole à 4 candidats et évoquer les propositions des autres qui se rejoignent souvent. Commençons avec Anne Hidalgo, la candidate du PS interrogée par Antoine Gignot. Elle veut un président moins fort, un parlement plus représentatif à l'issue d'une campagne décevante.
Vous voyez bien que la démocratie aujourd'hui ne fonctionne pas. On a un président super puissant qui a tout centralisé, qui par ailleurs refuse même de descendre dans l'arène. Il pense que l'élection est une option et que finalement il suffirait d'être nommé. Donc c'est quand même de l'ordre du scandale, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc oui, il faut revoir les choses en profondeur. Que le président préside, je suis très attachée à ce qu'il continue à être élu par le suffrage universel direct des Français, mais qu'il se concentre sur ce que sont les grandes orientations de l'État. Ensuite, il faut un Parlement qui joue véritablement son rôle, pour lequel je prévois un changement dans le mode de scrutin, qui permette à un certain nombre de députés d'arriver à la proportionnelle, donc ce qui permettrait de rééquilibrer, d'élargir un peu la base de ce Parlement. Et il faut absolument que ce Parlement ait des pouvoirs pour élaborer la loi, mais aussi pour évaluer. Vous savez, dans ce scandale auquel on est en train d'assister concernant McKinsey, très clairement, si le Parlement avait des pouvoirs d'évaluation, ça serait beaucoup plus utile à la démocratie que de passer par des cabinets privés.
Alors Maxence Lambrecq, Anne Hidalgo évoque la proportionnelle, elle n'est pas la seule.
15% des voix, 15% des sièges, c'est le principe de la proportionnelle, alors qu'aujourd'hui le RN par exemple n'a que 6 députés après avoir été qualifié au second tour de la présidentielle en 2017. Il est d'ailleurs probable que Marine Le Pen n'ait pas plus d'élus en juin, même si elle fait un meilleur score cette fois-ci. Anne Hidalgo propose donc une dose de proportionnelle, on vient de l'entendre. Pour Marine Le Pen, comme pour Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Philippe Poutou, Fabien Roussel, il faut aller vers la proportionnelle intégrale, en finir avec les circonscriptions comme aux élections européennes. Les deux candidats qui ne veulent pas revoir le mode de scrutin des députés sont Éric Zemmour et Valérie Pécresse. D'ailleurs, la droite au Sénat est susceptible de bloquer cette réforme.
Maxence, Anne Hidalgo a d'autres propositions ?
Oui, on la retrouve et elle propose d'abord notamment l'amendement citoyen.
Je souhaite aussi que les citoyens puissent intervenir directement dans le processus d'élaboration de la loi, qu'il y ait une possibilité d'amendement citoyen. Pour ça, je transforme le Conseil économique, social et environnemental en une véritable chambre de la consultation citoyenne et de la société civile. Et puis, un autre droit qui me paraît essentiel, c'est le pouvoir d'intervention directe des citoyens à travers le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Vous en souvenez, c'était une grande revendication des Gilets jaunes. Je pense que c'est très important qu'ils puissent en effet intervenir directement dans le fonctionnement de la démocratie et réhabiliter aussi l'importance du vote, je le dis. Moi je propose d'abaisser le droit de vote à 16 ans, ça me paraît très important parce que j'ai trop entendu de politiciens expliquer que puisqu'ils sont jeunes et qu'ils ne votent pas, alors on ne s'intéresse pas à eux. Que la possibilité de voter blanc existe me paraît aussi quelque chose d'important et ce que j'ai inscrit dans mon programme.
Voilà pour les propos d'Anne Hidalgo au micro d'Antoine Gignot. Alors revenons, Maxence Lambrecq, sur ces mesures contre le malaise démocratique une par une. D'abord, le vote blanc dont elle vient de parler.
Et si le vote blanc est majoritaire, élection annulée. C'est aussi ce que portent Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan qu'on va écouter, ainsi que Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Avec Anne Hidalgo, tous les trois proposent le droit de vote dès 16 ans.
Il était question aussi du référendum d'initiative citoyenne, mais ça existe déjà.
Oui, avec un nombre de signatures quasiment impossible à atteindre. Plus de 4,5 millions. Souvenez-vous, pendant ce quinquennat, le référendum pour ou contre la privatisation d'aéroports de Paris n'avait pas vu le jour, même si un peu plus d'un million de personnes s'étaient mobilisées. C'est le nouveau seuil que voudrait fixer le PS, le PC. Jean Lassalle propose un RIC des 700 000 signatures. Jean-Luc Mélenchon souhaite qu'il puisse permettre la révocation d'élus ou l'abrogation d'une loi. Emmanuel Macron, lui, n'en veut pas, souhaitant limiter les pouvoirs des administrations, laisser plus de mains aux politiques et proposer peut-être un référendum sur la fin de vie. Marine Le Pen propose, elle, un seuil assez bas pour ce référendum d'initiative citoyenne, 500 000 personnes, comme Nicolas Dupont-Aignan. Le candidat Debout la France a répondu aux questions de Julie Drouin. Que veut-il faire de la Ve République ?
Revenir à l'esprit initial où les Français étaient consultés par référendum par le général de Gaulle, mais appliquer aussi le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que 500 000 signatures, les Français peuvent décider de soumettre au peuple une question majeure. Ça va oxygéner et les Français redécouvriront l'utilité du vote comme en Suisse.
Nicolas Dupont-Aignan, quelle première réforme institutionnelle mettez-vous en place en cas d'élection ?
Consulté par référendum sur l'Union européenne, sur un nouveau traité, une nouvelle relation pour rendre à la France son indépendance tout en ayant des coopérations avec nos voisins.
Une sortie envisagée ?
Non, c'est pas une sortie, c'est une reconstruction. Soit nos partenaires acceptent, soit on s'en va.
Si vous êtes élu, c'est pour un quinquennat. À quel moment interviendrait la réforme du septennat ?
Eh ben, par référendum, si les Français le souhaitent. Je prévois 5 référendums la première année, donc vous allez à voter avec moi.
Vous pouvez me dire lesquels ?
Ah ben, c'est très simple. Un référendum sur l'Union européenne et le nouveau traité que je propose. Un référendum sur le nouveau code pénal. Un référendum sur l'immigration. Un référendum sur les institutions. Le RIC, le vote blanc, le septennat, avec référendum révocatoire au milieu, et puis un référendum sur l'éducation nationale.
Alors sur l'immigration et l'éducation nationale, qu'est-ce que ça sous-entend comme référendum, comme question posée aux Français ?
Sur l'immigration, est-ce que vous voulez continuer avec de l'immigration ou est-ce que vous voulez arrêter par l'ensemble des mesures suivantes ? Et il y aura 5 mesures qui sont dans mon programme et je veux les faire adopter par référendum. Et puis sur l'école, c'est reconstruire l'école de la République. L'exigence du savoir, le rétablissement d'un examen en fin de primaire avant d'entrer en sixième, le retour d'un vrai bac, une exigence de savoir, l'augmentation des heures de français, la méritocratie.
Vous évoquez le vote blanc, la comptabilisation du vote blanc dans les élections. Comment on fait en cas de majorité de vote blanc ?
S'il y a une majorité de vote blanc sur un scrutin, eh bien le scrutin est annulé.
Et on fait comment alors ?
Eh bien on recommence avec d'autres candidats.
Tous les candidats changent ?
Tous. tu auras toujours un moment un sursaut. Vous savez, les Français veulent un grand ménage et il faut faire ce ménage.
Autre proposition dans votre programme, la création de services publics itinérants. Pouvez-vous me détailler cette mesure ?
C'est simplement que je veux que chaque Français ait accès au service public. On ne peut pas mettre le service public dans chaque village, donc il faut organiser un système, une journée par semaine, avec un service public itinérant. C'est pas aux Français de se déplacer, c'est au service public d'aller à leur rencontre. Et je suis certain que c'est jouable.
Alors là, on entend, Maxence, un autre aspect pour répondre à ce malaise démocratique, des institutions au plus près du terrain. Ça parcourt aussi les projets.
Oui, celle qui en a fait un marqueur de sa campagne, c'est Valérie Pécresse, proposant une république des territoires, une réforme des libertés locales, en clair, plus de pouvoir aux régions, aux départements, aux communes, vers une première république fédérale, propose lui Yannick Jadot, favorable aussi à une importante décentralisation.
Et puis il y a ceux qui veulent passer à la 6e république.
Oui, c'est la première promesse de Jean-Luc Mélenchon, convoquer une assemblée constituante à base de tirage au sort et d'élections pour écrire en 2 ans une nouvelle constitution, sûrement sans président et soumise à référendum. La candidate de Lutte ouvrière veut aussi en finir avec les institutions d'aujourd'hui. Nathalie Arthaud est avec Yael Gauze.
Vous savez, la 5e République, la façon dont les institutions politiques fonctionnent sont à l'image de l'ordre social capitaliste où il y a une classe sociale qui domine l'autre. Une société de classe est en effet dirigée par des institutions qui n'offrent la possibilité à la population que de faire des chèques en blanc finalement.
Et alors quel serait le bon modèle démocratique selon vous?
Je suis bien sûr pour la démocratie la plus large, je suis pour la proportionnelle intégrale, je suis aussi pour la révocation des élus. Je pense que les élus devraient être rémunérés au salaire moyen. Le fait d'être élu est simplement une responsabilité qui devrait être accomplie, mais sans accorder quelques privilèges que ce soit.
Est-ce que ça passe encore par des députés ou par des chambres ?
Ah mais moi je suis convaincue que s'il y avait une révolte générale, si le pays se couvrait d'assemblées général, de comités de grève, comités d'organisation, eh bien, on inventerait de toutes autres institutions, des institutions bien plus démocratiques, bien plus directes, bien plus soumises au contrôle de tout un chacun. Il n'y aurait pas cette séparation qu'on connaît aujourd'hui entre d'un côté un milieu politique et puis le reste de la population. Il y aurait beaucoup plus de liens, beaucoup plus d'ailleurs de décisions et d'actions mises en œuvre par la population elle-même, sans en passer par je ne sais quelle institution, corps intermédiaire ou que sais-je encore.
Est-ce que la Commune de Paris est un bon modèle ?
Je pense que la Commune de Paris est un bon modèle. Je pense que les soviets de la Révolution russe jusqu'en 1923 sont des bons modèles. Vous savez, la Commune de Paris a fait ce qu'aucun autre gouvernement n'a jamais réussi à faire, à loger tout le monde, à loger tout le monde, mais parce que c'est quelque chose de simple finalement. Il suffit de se reposer, de faire confiance à la population, elle sait où est-ce qu'il y a des immeubles inoccupés et quand elle a la volonté eh bien, de les ouvrir et d'y loger ceux qui sont sans toit, eh bien, c'est possible de le faire.
Voilà Nathalie Arthaud avec Yael Gauze, Maxence Lambrecq dans cette course à l'Elysée. Il y a un autre candidat trotskiste.
C'est Philippe Poutou pour le nouveau parti anticapitaliste qui a des propositions assez précises. Il était hier soir à Toulouse avec Hugo Charpentier et lui aussi déçu par cette campagne.
Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de confrontation. C'est juste un défilé de candidats, de candidates qui rêvent du poste. Et puis voilà, c'est vrai que ça rend l'élection très inintéressante et du coup, ça renforce un petit peu le goût à l'abstention, je pense.
Et du coup, votre première mesure, si vous êtes élu président, votre première mesure concernant les institutions démocratiques, ça serait laquelle ?
Bah déjà, c'est fixer une limite de revenus pour les élus, à la fois un plancher et un maxi, parce qu'en fait, il y a pas mal d'élus dans les collectivités territoriales, dans les petites communes qui n'ont rien, en fait, et puis des élus à l'Assemblée ou au Sénat qui ont beaucoup trop. Donc en fait, ce serait un salaire moyen pour tout le monde, autour de 2000 euros, en fait, pour tous les élus, quelle que soit leur fonction, quelle que soit l'échelle à laquelle ils sont élus, quoi.
Vous avez aussi beaucoup d'autres propositions, supprimer la fonction du président de la République, par exemple ?
Oui, tout à fait. Nous, on pense que les institutions aujourd'hui ne sont pas du tout démocratiques, donc il y a une fonction présidentielle qui est elle particulièrement antidémocratique. Et après, il y a des règles qu'on voudrait changer, effectivement. La proportionnalité intégrale pour toutes les élections. Ensuite, il y a la révocation des élus. Dès qu'ils ne respectent pas des promesses ou un programme, il faudrait qu'il y ait la possibilité pour la population de démettre un élu ou une élue. Et puis, après, il y a d'autres choses. Sur le droit de vote, nous, on pense que ça fait quand même longtemps et la gauche a abandonné cette revendication-là, mais c'est le droit de vote des étrangers ou des immigrés. Enfin, à partir du moment où on vit sur un territoire, on doit pouvoir s'exprimer, et quelle que soit l'élection, de la municipale jusqu'à la présidentielle.
Et au regard de votre position sur le système démocratique actuel, quel est le sens du coup de votre candidature aujourd'hui ?
Ben nous, on est dans le rejet de l'institution politique, mais on est dans le rejet aussi d'un système économique qui est profondément antidémocratique. Parce que si on discute juste de la démocratie, c'est aussi dans l'entreprise, dans la vie économique, où on voit bien que la population n'a aucun droit. Donc en fait, c'est la remise en cause de tout ce qui est privé ou dans les secteurs vitaux de l'économie. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'expropriation, de socialisation. C'est une idée de contrôle public de secteurs entiers de l'économie et donc d'une démocratie réelle où la population peut décider des productions, de comment on fait, de comment on organise le travail. Ce sont des choses qui, pour nous, relèvent d'une démocratie, y compris politique.
Et par ailleurs, Maxence Lombrec, Philippe Poutou ne veut plus de président.
Non, plus de président. Ils sont plusieurs à trouver qu'il n'a pas assez de temps pour changer les choses. Le septennat revient dans le débat. Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan y sont favorables. Septennat unique propose enfin l'écolo Yannick Jadot.
Merci Maxence Lombrec, service politique de France Inter, pour ce tour d'horizon des réponses des candidats au malaise démocratique. Évidemment, la campagne, on continue de la suivre. Fin de la campagne officielle ce soir, minuit. Il est 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Racontez la France d'aujourd'hui en retournant sur une ancienne ligne de fracture.
Oui, parce qu'il y a les fractures bloc populaire, bloc élitaire, etc., etc. Mais une vraie fracture, la démarcation 40-42.
Et c'est le journaliste suisse Richard Verli qui publie un livre à ce sujet. Vous nous en parlerez. Avant cela, dernier épisode de notre feuilleton. Une semaine au sein d'une entreprise de transport, carburant, mais aussi souvenir de l'époque du confinement quand les routiers étaient parmi les travailleurs essentiels. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le comédien Swan Arlo est à votre micro aujourd'hui. Il est jusqu'à samedi prochain au Théâtre 14 à Paris. Il joue Exécuteur 14 d'Adèle Hakim, accompagné d'un percussionniste.
Le percussionniste Mahu, c'est un homme qui raconte la barbarie d'une guerre, ce texte. Sa guerre, sa propre barbarie. Le texte est terrible. À milieu de l'histoire que m'a raconté Swan Arlo, son histoire singulière avec une chanson qui a bercé son enfance. La mienne aussi d'ailleurs, Paolo Conte, Via con me.
Ma mère écoutait souvent cette chanson, et donc c'est It's wonderful, it's wonderful. Et moi j'entendais It's wonderful, it's wonderful, et j'entendais mon prénom. Et je me disais, elle est quand même incroyable, quoi. C'est quand même balèze, quoi. Je sais pas comment elle a réussi à faire ça, comment est-ce qu'elle a pu contacter ce type. Il y avait derrière quelque chose qui s'était organisé pour que cette chanson soit écrite pour moi, quoi. Évidemment, plus tard, j'ai compris que c'était It's wonderful et non pas It's wonderful. Mais en fait, cette chanson est restée pour moi ça. C'est-à-dire que dès que je l'entends quelque part, je me dis « Ah yes !» Ça veut dire que je suis sur la bonne route. Ça veut dire que je suis pas en train de me planter. Là, je me dis « Bon, on fait cette émission aussi pour parler du spectacle et tout ça. » Bon, évidemment, comme n'importe quel acteur, je suis terrorisé à l'idée de monter sur scène. Et je me dis « Bon, bah, si je parle de cette chanson, ça va me porter chance, quoi. » Voilà. C'est une espèce de chanson totem comme ça. Et je l'entends encore quand je la réécoute. Je me dis, mais non, il dit quand même vraiment, it's wonderful, quoi.
Alors, le full.
Et bah, c'est wonderful, quoi. C'est une version augmentée, quoi.
De vous-même.
Ouais. Enfin, en tout cas, c'est une manière de dire, vas-y, mon petit gars, vas-y, on va te mettre tout ça en chanson, on t'accompagne, et confiance, ça va aller.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips.
Bon, en fait, il ne chante pas C'est Swan, Frédéric Paolo Conte, il chante C'est merveilleux.
Oui, mais c'est merveilleux que Swan Arlo continue d'entendre son prénom dans cette chanson. Swan Arlo, qui d'ailleurs, quand il était enfant, ne trouvait pas merveilleux de s'appeler Swan, non. Pour lui, ça ne faisait pas assez sérieux.
C'est-à-dire que, je disais, pour un enfant, ça va. Mais pour un adulte, ça va pas le faire, il va falloir qu'on trouve un truc. Parce que moi, je pensais que les adultes, on les appelait Monsieur Frédéric ou Madame Nathalie. Ou, voilà. Et donc, Monsieur Swan, ça marche pas. Swan, ça va, jusqu'à 12 ans peut-être. Mais après, il fallait trouver un truc un peu crédible. Et donc, ma mère me disait, bah, écoute, si vraiment tu veux changer, tu changeras, si c'est vraiment un problème.
Vous, vous appelez Swan, pour quelle raison ?
En fait, je crois que c'est que enceinte de 6 mois ou quelque chose comme ça, ma mère est allée chez une amie et il y avait le livre Un amour de Swan qui était posé là et elle s'est dit ah mais tiens voilà, et puis mon père a trouvé ça super et voilà, ils sont mis d'accord sur ce prénom. Mais le médecin accoucheur s'appelait Docteur Proust et il était persuadé que c'était à cause de lui que ma mère avait choisi ce prénom et ça agaçait beaucoup mon père. C'était évidemment pas à cause de lui, c'était une coïncidence, mais la coïncidence était quand même assez folle, quoi. Donc c'est marqué dans le carnet de santé, quoi. Swann accouché par les bons soins du Docteur Proust. C'est quand même wonderful.
Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.
Il y a une chanson qui s'appelle Du côté de chez Swann.
Ouais. Celle-ci, c'est mon fardeau, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment, ah, j'irais bien faire un tour du côté de chez Swann. Tout le monde me faisait le coup. Enfin, je le prenais comme une vanne, la chanson de Dave, quoi. Après, dans les vannes, quand j'étais petit, on me disait, t'es malade, soigne-toi bien. Et ça me faisait pas rire du tout, mais aujourd'hui, avec l'heure que je la trouve vraiment pas mauvaise, quoi.
Soigne-toi bien.
Soigne-toi bien. Ouais.
Paolo Conte, Via Con Me, c'était donc Frédéric, le choix de Swann Harlow.
Swann Harlow, qu'on retrouve dans la pièce Exécuteur 14 au théâtre 14, c'est jusqu'au 16 avril.
Bon week-end Frédéric. Et après le 13-14 dans la Sarthe hier, consacré au pouvoir d'achat, nous retrouvons notre feuilleton. Une semaine dans la vie de l'entreprise de transport Coton près de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Pour mesurer l'impact de la hausse du carburant dans une entreprise de près de 50 salariés, mais aussi pour parler de ce métier de transporteur. Aujourd'hui, Sarah Guibaudot achève sa tournée en camion avec le fondateur, Paul Coton. Elle revient avec son fils Jérôme, qui dirige l'entreprise aujourd'hui, sur la crise sanitaire. Les routiers étaient aussi des travailleurs essentiels.
Je recule là devant la porte. Sauf à là, papier toilette.
Allez, c'est fini, le client est livré.
On ferme les portes, on s'en va. Bonne journée.
Merci, à vous aussi.
Au revoir.
Allez, retour au dépôt.
Ici, dans l'Ain, les routes sont à 80 km/h ou 90 où
80.
On en est.
D'accord. Ouais. 80 km/h, bah, c'est la région. Par contre, le département voisin, le Jura, 90. Alors, c'est très difficile. C'est souvent que les chauffeurs, on se fait avoir. Hein, parce que vous changez de département, de région, ça change. Souvent, au bout, il y a un radar qui vous flash. Jamais des gros excès de vitesse en poids lourd, mais c'est toujours des 1, 2. Un ou deux kilomètres de trop, quoi.
Là, il y a un panneau radar, justement, mais vous devez les connaître, quand même, les radars du coin.
Oui, non, mais dans la région, on sait pas tous où ils sont, sauf quand ils les déplacent, parce qu'ils mettent les radars de chantier. Et les radars de chantier sont souvent vandalisés. Hein. Soit brûlés, soit renversés, tagués.
Et on revient au dépôt.
Et voilà.
Ouais, Anthony, salut Jérôme. Dis-moi, tu penses rentrer à quelle heure cet après-midi ? Eh ben, ça marche. À tout à l'heure.
Alors là, Jérôme Coton, on est dans votre bureau et on regarde où sont les chauffeurs qui rentrent d'une semaine sur la route.
Ouais, effectivement. Le vendredi après-midi, à partir de 14h, entre 14h et 17h, tous les conducteurs rentrent au dépôt. C'est l'occasion pour nous de débriefer de la semaine.
Jérôme Coton, vous dirigez donc cette entreprise de transport routier. Comment est-ce que vous avez traversé la crise sanitaire ?
Alors, lors du premier confinement, quand Emmanuel Macron a annoncé le confinement dur, c'était un samedi, je me rappelle bien, on a retourné l'entreprise en un week-end, en fait, puisqu'on a une bonne partie de fret industriel qui s'est arrêtée net. Le lundi, plus rien ne roulait en industriel. J'ai la chance d'avoir des clients dans la grande surface. Et donc, il a fallu qu'on mette plus de moyens à leur disposition pour pouvoir livrer les grandes surfaces dans les villes et les villages alentours. On avait beaucoup de gens qui étaient arrêtés aussi, hein, donc j'ai repris le volant pendant quelques semaines. C'était assez lunaire, on était tout seul sur la route, on faisait des kilomètres et des kilomètres d'autoroutes départementales. On avait l'impression d'être seul au monde. Et on était reçus comme des messies quand on arrivait dans les magasins, qui souvent se faisaient dévaliser. Et j'ai le souvenir d'un patron de magasin qui m'attendait. Donc j'avais des palettes de papier toilette. Le directeur m'a dit venez voir, suivez-moi. Il a pris la palette de papier toilette, l'a posée au milieu du magasin et en 20 minutes, la palette était vide.
Pour finir sur les carburants, là, donc j'ai vu en effet quand même ça. Ça pose des soucis au quotidien dans votre entreprise. Vous êtes aussi le président de la Fédération nationale du transport routier pour l'Ain. Comment est-ce que vous voyez les choses pour les semaines à venir ?
Pour l'instant, on est vraiment dans une phase de négociation plus que d'action. Il y a déjà eu un pas de fait par le gouvernement. On attend plus, on va voir ce qui se décide dans les semaines à venir. On travaille vraiment au jour le jour, au niveau de nos marges, au niveau de nos tarifs, au niveau de tout, avec des prix de gasoil qui fluctuent tellement. Et vous dire, vous donner une échéance, c'est vraiment compliqué.
Une semaine dans leur vie, une semaine avec l'entreprise Coton Feuilleton, Sarah Guibaudot, réalisation Théo Raison. C'est à réécouter sur franceinter.fr et les bonnes plateformes de podcast.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire à 48 heures du premier tour de la présidentielle, un livre qui nous change des représentations désormais dominantes sur l'archipel français, les métropoles et les périphéries. Le journaliste Richard Verly exhume une autre ligne de fracture en France.
Il s'en est allé radiographier la ligne de démarcation qui a divisé quand même, vous en conviendrez, plus gravement notre pays, de la défaite de l'été 40 à l'occupation complète de novembre 42 que les fractures présentent. Alors pour cette exercice, Verly combine beaucoup de qualités. Il sait circuler à petite vitesse. Il lit beaucoup, particulièrement l'identité de la France de Braudel, qui explique qu'il faut se méfier des généralisations. Aucune commune en France n'est semblable à sa voisine. En plus, Verly est suisse et les interlocuteurs détestent moins le journaliste étranger que le français. Surtout si, comme lui, il a passé son enfance dans la Nièvre, non loin de la ligne. La ligne. Alors, 1200 kilomètres depuis la frontière suisse jusqu'à la Pyrénéenne, coupant d'abord le pays à l'horizontale, puis tournant, vous me suivez, hein,
oui,
le long
oui.
de la Loire et devenant verticale pour finir en parallèle à la côte atlantique qui restait allemande. Bon, on va prendre une loupe et lui, il observe surtout la partie qui va de la Saône-et-Loire, du Cher, de l'Allier à la Nièvre. Visite aux paysans du centre, aurait dit avant-guerre Daniel Alévi quand il allait saluer à pied l'écrivain paysan Émile Guillaumin, l'auteur illustre de La vie d'un simple.
Et dans le livre de Verly, nous sommes dans une France restée simple, en effet, au paysage moins changé qu'ailleurs.
Traînait dans la Nièvre, Huguette, 98 ans. Mais c'est quoi votre histoire d'archipel français ? Cet archipel, ce sont les Français qui le créent, à force d'ignorer le pays dans lequel ils vivent. Les Gilets jaunes, en revanche, Huguette, elle connaît. Ils ont été nombreux de part et d'autre de l'ancienne ligne de démarcation. Éric, l'un d'eux, 46 ans, en parle ainsi. En 1940, nos grands-parents avaient raison quand ils ne se sentaient pas coupables d'une défaite qui n'était pas la leur. Eh bien, pareillement, c'est pas notre faute s'il y a plus de gares, de services publics, ni de médecins.
Bon, d'accord, mais le rapprochement a ses limites. La fracture était ouverte en 40, partout des panneaux interdits de traverser. On ne pouvait tout simplement plus retrouver les Français de l'autre bord.
Oui, mais il faut pas oublier ce que permettait la ruse. Les Français ont en commun la ruse. Le régime de Pétain se tenait au-dessus d'eux. Bibliothèque rose, marché noir et débrouille. Le jour, la barque était noyée dans le Cher, l'Allier, la Loue, comme le goujon dissimulé dans les sables. Mais la nuit venue, le passeur la réveillait. Paris était occupé, Vichy n'était pas une capitale. Dans cette vieille France du centre, il n'y avait plus de centre. On était passé d'une économie nationale à une économie communale. Les agriculteurs cherchaient à engranger le plus possible pour les besoins de l'immédiat. Et les maires, eux, produisaient beaucoup, beaucoup de faux papiers. C'était le retour au circuit court.
Alors, rétrospectivement et paradoxalement, la ligne a fonctionné comme un trait d'union ?
C'est l'interprétation de Verly. Les anciens voisins qui obstinément continuent de regarder vers le vis-à-vis de l'autre côté de la ligne. Les maires qui obtiennent de faire revenir ceux d'en face pour les semailles. La grande dentelle des douleurs soigneusement reprisée maille par maille. La ligne ne tue pas l'appartenance à une même nation, ce serait peut-être le contraire.
Oui, mais aujourd'hui, dans les mêmes parages.
Où sont les passeurs ? Demande Verly. Le docteur Chanel, dans la Nièvre, a guidé au total plusieurs centaines de fugitifs. Mais où sont les médecins ? À Teignoux, dans le Cher, à l'auberge de la coquelle qui sert encore tous les jours à manger. Les hôtes expliquent qu'il faudrait non seulement des docteurs qui parcourent la campagne, mais des personnes, dirait Huguette de Trenet, qui parlent encore spontanément, autant des formules automatiques. Verly, en tant un riverain de la ligne, lui rappelait combien de saloperies se sont produites aux alentours. Mais ça fait quand même du bien, un livre qui parle du souvenir comme d'une thérapie à une époque où l'histoire est si souvent utilisée pour le ressassement des ressentiments.
Richard Verly, La France contre elle-même, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui, c'est publié chez Grasset. Intelligence Service, Jean, demain.
Montaigne et la Boétie, la politique par le bas, par l'amitié.
Vous savez. On vous écoute à 18h demain et en podcast pour toutes les émissions d'Intelligence Service. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, c'est Club le vendredi.
Oui, j'aime beaucoup. Moi, aujourd'hui, c'est Satellite et Semence. Voilà, au programme.
C'est noté. À tout de suite.